Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Vorace sur Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue sur IDFM 98 ou 98.fr pour ce nouveau numéro de l'économie en direct. Depuis des années, la sécurité est l'une des priorités des Français. Une préoccupation qui n'a jamais quitté le haut des sondages. Rapport après rapport, les chiffres confirment une montée des violences de toutes sortes. Et le gouvernement en a fait une priorité en cette année 2022. En complément de la sécurité publique, la sécurité privée est appelée en renfort. Métiers et qualifications d'excellence autour des métiers de la sécurité, sciences forensiques et création d'une fondation de la sécurité seront les thèmes de notre émission de ce mardi 27 septembre. Et pour en parler jusqu'à 11h, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Morge. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir à nouveau dans nos studios.
Merci à vous.
Jérôme Morge, vous êtes directeur opérationnel du CMQ, le campus des métiers et qualifications d'excellence autour des métiers de la sécurité, basé à Argenteuil. Un lieu consacré aux métiers de la sécurité, sûreté, cybersécurité et innovation. Porté par CYU, Sergi Paris Université, le CMQ réunit plusieurs acteurs et offre plusieurs formations. Et c'est ce que nous allons découvrir avec vous dans quelques instants. À vos côtés, le général François Daoust. Bonjour, général.
Bonjour.
Merci pour votre présence. Vous êtes le directeur de CY Forensic School de l'Université de Cergy-Paris. Général de gendarmerie, vous avez dirigé le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, PJGN, un pôle d'expertise voué à la criminalistique et à l'intelligence judiciaire dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire français. Vous nous expliquerez ce que ces sciences englobent et quels sont leurs débouchés.
Avec plaisir.
À vos côtés, Stéphane Volant. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Également, merci d'être présent sur IDFM 98. Stéphane, vous êtes le président, alors je prends ma respiration.
Et prenez votre élan.
Vous êtes le président du club des directeurs de la sécurité des entreprises, le CDSE. À ce titre, vous êtes le vice-président du Collège national des activités privées de sécurité, CNAPS, et vous êtes également le vice-président de la filière des industries de sécurité qui regroupe l'ensemble des industriels du secteur, toutes tailles confondues, grosses entreprises et start-up. Trois casquettes qui expliquent que vous avez été pressenti pour être président d'une fondation, celle des métiers de la sécurité. Je crois que je vais être obligée de vous appeler président.
Si vous voulez, mais on peut peut-être faire plus simple, non?
D'accord. Alors, après nous avoir décrypté vos différentes responsabilités, vous nous direz pourquoi une fondation des métiers de la sécurité, son fonctionnement et dans quel but. Merci à tous les trois de participer en direct à ce nouveau numéro de l'économie en direct. Et sans plus attendre, je me tourne vers vous, Jérôme Morge. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais la sécurité et forcément l'insécurité reste en haut du tableau des priorités. Cet été encore, plusieurs faits divers en ont été l'écho. Avec les années, le marché de la sécurité privée s'est structuré, d'où la naissance de ce campus à Argenteuil.
En effet, oui. Ce qui est important de rappeler, ce sont les trois membres fondateurs et constructeurs de ce campus, que sont la région Île-de-France, l'Académie de Versailles et CY Cergy Paris Université. C'est un positionnement avant tout régional, mais qui a un rayonnement national comme objectif. Et puis, l'avantage d'avoir l'Académie et une université, c'est de se positionner sur tout l'appareil de formation, aussi bien le scolaire et le supérieur. Nos axes de couverture sont en effet ce qu'on appelle la sécurité-sûreté, mais également la partie numérique. On a quand même un hôpital qui fait l'actualité en ce moment à propos de cyberattaques. Donc ça, c'est un axe, le numérique. La sûreté, comme on le disait, donc là, ce qui va être plutôt les agents de terrain, quels qu'ils soient, il y a 28 métiers différents dans les métiers de la sûreté. Et ça englobe aussi toute la partie vidéoprotection, drone et ainsi de suite. On a un troisième axe qui est la santé sécurité au travail, le bien-être de l'individu au travail. Et puis la Covid nous a quand même beaucoup amené à réfléchir sur le positionnement, sur la gestion des équipes et des hommes, avec un grand H dans ce cas-là. Et notre quatrième axe, c'est grands événements et risques pandémiques. Et aujourd'hui, grands événements, nous sommes assez sollicités, si je peux m'exprimer ainsi, oui, sur la partie Jeux Olympiques.
Bien sûr.
Il est important d'aider à former assez d'agents pour assurer que nos Jeux Olympiques se passent dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, ce sont vraiment nos missions. Pour le campus lui-même, on en est à notre troisième rentrée. Alors là, ça fait 2 ans et quelques d'existence. Troisième rentrée, on avait 40 élèves la première année, 60 la deuxième, on est à 80, donc on est sur notre croissance classique. Il faut rappeler que le campus, c'est un lieu de formation en effet, mais pas que. C'est aussi l'animation d'un réseau sur tout ce qui est la formation, notamment autour de la sûreté, de la sécurité en Île-de-France. Donc tous les lycées sont concernés, tous les établissements d'enseignement supérieur sont concernés, et donc on crée des formations infra-bac et dans le SUP. C'est ça qui est important, aussi bien de la formation initiale et l'actualité de cette année, enfin une des actualités de cette année, c'est l'ouverture de formation continue, puisqu'on va préparer 12 personnes pour le concours de policier municipal. C'est vraiment une incubation qu'on fait à travers ça pour arriver à déployer ce programme à plus grande échelle ensuite.
C'est ça, là. Donc cette formation continue veut dire que vous allez vous adresser à des gens peut-être plus âgés?
Oui, du coup, la population n'est pas la même, hein, sur nos formations, je vais dire historiques, hein, oui, de 3 ans, mais voilà, on a une partie en réseau et cybersécurité, on a une partie en vidéoprotection, contrôle d'accès, système d'alarme, et une partie en agent de sécurité, agent SIAP, où on forme sur ces deux compétences. Ça sont nos 3 formations maintenant historiques. Ça fait 3 ans c'est la troisième année qu'on les ouvre. Là, on s'adresse à une population différente dans le cadre de la préparation concours à la police municipale, puisqu'on travaille avec Pôle emploi, donc Pôle emploi essentiellement Argenteuil, mais Pôle emploi tout Val d'Oise est mobilisé pour trouver les bons candidats, les meilleurs candidats à cette préparation au concours.
Oui, c'est ça, et vous confirmez ce que je disais un peu en préambule, c'est que la police, enfin la sécurité privée vient en renfort de la police publique.
Aujourd'hui, on observe un glissement du curseur entre la répartition entre les régaliens et les privés. Il reste à positionner ce curseur en fonction du volume des forces en présence de chaque côté. Et puis il y a aussi la montée en puissance des polices municipales. Donc il y a aussi un équilibre à faire entre tout ça, les policiers municipaux, les policiers nationaux, les gendarmes, et puis à côté, tout ce qui est sécurité privée dans tous ces aspects, hein. La sécurité privée, c'est très large. Vous avez les agents qui sont les agents classiques et qui font en sorte que dans tous les lieux publics, tout se passe bien. Et puis après, vous avez des agents un peu plus spécialisés. Je ne vais pas tous les citer, hein, mais vous prenez un agent cynophile, vous prenez un agent de protection rapprochée. Tout ça, ce sont des gens qui œuvrent ensemble. Toutes ces forces œuvrent ensemble pour que ça se passe bien, que ce soit la vie au quotidien ou que ce soit des événements un peu particuliers comme la Coupe du Monde qui nous attend, la Coupe du Monde de rugby en septembre prochain, oui, et puis après les Jeux Olympiques. Mais c'est important de se projeter plus loin. L'idée, c'est quand même d'arriver à avoir une situation apaisée et de que la société soit plus sereine, si on peut dire ça comme ça, quoi. Donc on œuvre sur des formations et sur des échanges avec les professionnels par rapport à ça. Dans l'animation du réseau, c'est vraiment ça l'idée.
Oui, c'est ça. L'important, c'est d'avoir des gens formés avant tout, qui ne sont pas appris comme ça.
Et c'est là où je fais peut-être un peu le lien avec mes deux camarades.
Oui.
Former, c'est bien, mais former à quoi? On commence d'abord par ça, en fait. Réunir des professionnels pour savoir quels sont leurs besoins. Et donc c'est là où, Stéphane développera le sujet tout à l'heure, mais c'est là où l'aura d'une fondation peut être très important pour nous, pour réunir encore plus de monde et être vraiment sûr qu'on forme sur les bons métiers. L'idée, c'est d'être très réactif sur nos formations et d'arriver à avoir cette souplesse de monter des maquettes pédagogiques très rapidement pour répondre à un besoin du quotidien.
Vous disiez qu'il y a donc 28 métiers dans ce domaine de la sécurité-sûreté.
28 déclinaisons, en fait. C'est un peu ce que je citais tout à l'heure avec l'agent de protection rapprochée. Oui. On connaît sous un autre terme, hein, le fameux garde du corps, l'agent cynophile. Voilà. Vous avez l'agent SIAP. Dans l'agent SIAP, vous avez 3 niveaux, le SIAP 1, le SIAP 2, le SIAP 3. Mmh. C'est ce qu'on appelle les pulls rouges en entreprise. Vous les voyez, et c'est eux qui sont chargés de toute la sécurité incendie, de veiller que tout se passe bien et qu'en cas d'évacuation, on sera capable d'évacuer quelle que soit la taille du bâtiment dans les bonnes conditions. Donc tous ces métiers-là se déclinent. Vous avez tout ce qui est les agents sur les sites Céveso et ainsi de suite. Donc voilà, il y a toute cette déclinaison.
Et toutes ces déclinaisons sont on trouve leur formation au CMQ.
Alors pas au sein du campus, puisque aujourd'hui notre lieu de résidence, ce sont les bains douches à Argenteuil. Oui. À Argenteuil, on a 400 mètres carrés. On se projette sur un autre bâtiment qui est l'IUT d'Argenteuil avec 5700 mètres carrés. Donc on pourra accueillir un petit peu plus de formation. Mais l'idée, c'est vraiment d'animer un réseau à travers toute l'Île-de-France, donc de connaître les bons formateurs, les bonnes formations qui répondent, enfin, avec les bonnes normes de qualité et de formation, et d'être capable d'orienter les uns et les autres. L'idée, c'est pas de faire venir tout le monde dans un seul endroit en Île-de-France. Il faut avoir un maillage régional pour pouvoir adresser à côté des lieux d'habitation des gens, à côté des lieux de travail des gens, par rapport à ce à quoi on est intéressé.
Éviter les trajets trop longs, ça sert à rien, décourageant parfois.
Voilà, ouais. Exactement.
Alors, vous nous avez parlé de cette formation continue qui s'adresse à des gens un peu plus âgés, mais le CMQ accueille des jeunes, hein, des jeunes. Alors, qui sortent du collège.
Nos élèves, oui. Ce sont des post-bac. Prend, les critères, c'est bac et motivation. Quel que soit le bac, enfin voilà, je pense aujourd'hui que la motivation fait pour beaucoup dans la formation. Donc, être capable de bien expliquer les formations, de bien décrire les métiers, de donner envie et que les jeunes s'investissent. Donc ça, c'est vraiment nos élèves in situ, mais on a d'autres missions au sein du CMQ qui sont notamment quand on accueille des collégiens ou des lycéens, c'est de faire découvrir les métiers. Aujourd'hui,
vous parlez de portes ouvertes, par exemple.
Voilà, alors nous on n'appelle pas ça des portes ouvertes. On appelle ça des événements, on participe à différentes choses telles que les semaines des métiers, que ce soit pour faire découvrir les lycées professionnels, que ce soit les semaines rencontres école-entreprise, que ce soit le printemps de l'orientation, toutes ces choses-là sont faites pour que les jeunes, à la fois en collège et dès le collège, puis en lycée, dès le collège, pourquoi ? Parce qu'il y a une orientation à faire sur le lycée, donc c'est important qu'ils voient les métiers et qu'ils les connaissent. Typiquement, notre dernière action était de faire réaliser de filmer des gens en situation dans les métiers. Donc un de nos partenaires IBM a accepté qu'on soit 2 jours chez eux à Lille pour filmer, et du coup on a créé des films qui expliquent les métiers, et puis on met ça sous forme de casque de réalité virtuelle, et donc les jeunes viennent au campus où nous allons dans les collèges ou dans les lycées pour faire connaître les métiers. Et c'est important que les jeunes d'aujourd'hui connaissent les métiers pour choisir leur bonne orientation professionnelle.
Oui, rien ne remplace jamais qu'une bonne une mise en situation. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les semaines de métier fonctionnent bien puisque vous remplissez le campus depuis 3 ans.
Oui, et puis l'objectif, c'est vraiment le campus n'est pas une école, c'est assez original, c'est ce qu'on appelle des nouveaux outils pédagogiques. Ils commencent à avoir quelques années maintenant, 3-4 en moyenne. Mais l'idée, c'est vraiment d'incuber de la formation pour les rendre à tout opérateur de formation. Typiquement, notre bac plus 1 en réseau et cybersécurité va s'ouvrir dans un lycée à partir de septembre de l'année prochaine. Notre formation en vidéoprotection est en train de se faire double diplômée avec un autre lycée. On apporte de la connaissance et de la compétence aux organismes de formation, qu'ils soient du scolaire, donc les lycées, ou du supérieur, que ce soit des universités, des écoles d'ingénieurs ou autres. On est vraiment là pour essayer des choses. On a cette souplesse, on essaye de mettre cette réactivité, pour l'instant on y arrive, et donc c'est ça qui est important, de soit construire des nouveaux programmes pédagogiques complets d'une année, ou de 3 ans. Typiquement, on est en train d'incuber un bachelor en cybersécurité, ça c'est aussi notre nouveauté de l'année.
D'accord.
On a ouvert la deuxième année là, et puis on va déposer tous les dossiers qui vont bien pour se faire accréditer, et ça on le fait en soutien de l'école d'ingénieurs, typiquement de CY Tech dans ce cas-là. Donc c'est vraiment de l'incubation de formation pour la rendre aux opérateurs.
Et cependant, donc, vous déplorez une pénurie des profils dans l'informatique ?
Alors je ne suis pas le seul, je pense que c'est un constat classique, on manque de jeunes, c'est pour ça qu'on fait de l'information sur les métiers, on manque de jeunes filles aussi, donc je lance un grand appel, mesdames, vous avez le cerveau très très bien structuré, n'ayez aucun doute là-dessus, ça se prouve dans toutes les écoles d'ingénieurs où il y a des jeunes filles en informatique, vous avez toute votre place, bien au contraire, donc n'hésitez pas, les études d'informatique pour vous mesdames, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Donc en effet, l'informatique c'est une pénurie. C'est une pénurie à Bac plus 5, mais aujourd'hui le constat il est sur le Bac plus 3. En fait, le niveau d'ingénieur n'est pas satisfait, hein. Clairement, on n'arrive pas à pourvoir tout le monde, mais là où il y a une vraie pénurie, une très grosse pénurie, c'est sur du Bac plus 3.
D'accord, d'accord.
Et on donc, cherche de l'opérateur cyber, on cherche des choses comme ça. Mmh. Il y a des plans de recrutement aussi bien au niveau de la gendarmerie, hein, sur le com cyber. Hein, je donnerai pas le chiffre, mais ça se compte en centaines de recrutements, voilà. Et tous les grands acteurs privés aussi cherchent, voilà. Donc c'est important de mettre en place des stratégies de protection. On évoquait l'hôpital tout à l'heure, hein, mais faut savoir qu'il y a des départements qui ont été attaqués. Il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, on s'attaque à ce type d'institution. Voilà, on s'attaque aussi à des entreprises privées, hein, il n'y a pas de souci, mais s'attaquer à l'État et ses institutions, c'est une autre image et c'est différent. Mais il est important de pouvoir mettre en place les process et les procédures pour pouvoir se protéger. Et il est aussi important d'avoir les opérateurs qui vont réagir sur le terrain avec une très très grande réactivité et une connaissance technique très pointue. Et c'est vraiment ces Bac plus 3 là qui sont en grande pénurie aujourd'hui, en tout cas en France.
Est-ce que nous avons un peu échangé avant l'émission, est-ce que la Fondation des métiers de la sécurité pourrait venir répondre à cette pénurie de profils dans l'informatique?
Alors oui, à tout niveau, très clairement. Enfin, on échange régulièrement avec Stéphane sur la fondation, son devenir et ainsi de suite. C'est important pour nous de former sur les bons métiers. Et ceux qui connaissent les bons métiers, c'est ceux qui les pratiquent au quotidien. Oui. Et le rôle de la fondation, Stéphane le développera tout à l'heure, c'est vraiment de réunir les grands acteurs et de pouvoir les mettre tous autour de la table pour qu'on échange sur les besoins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qui de mieux pour former que les gens qui font le geste au quotidien.
Absolument.
Donc c'est important aussi de trouver les ressources humaines pour former. Les professeurs d'université, les professeurs d'école d'ingénieurs sont très bons formateurs. Les meilleurs opérateurs, ceux qui le font au quotidien, sont ceux qui travaillent au quotidien et qui viennent former. Et puis, il faut pas oublier le dernier axe, qui est quand même le nerf de la guerre, qui est le financement de tout ça.
Oui.
Voilà, il faut arriver à regrouper les bonnes personnes au bon moment, aux bons endroits, avec les bons objectifs. Et donc ça, c'est aussi le rôle de la Fondation. Que de travail pour toi, Stéphane.
Donc vous venez de l'exprimer un petit peu, mais quels sont vos besoins aujourd'hui, Jérôme Morge?
Alors moi j'ai
je
pense que mes camarades vont avoir un temps d'antenne très réduit. Non, on cherche des professeurs. Alors moi j'appelle pas ça des professeurs, j'appelle ça des intervenants. La marque de fabrique du campus, c'est notre chiffre, c'est 82% des enseignements en nombre d'heures sont dispensés par des professionnels. Donc on cherche des professionnels pour faire court. C'est 5 heures, 10 heures, 20 heures, voilà, en fonction du thème, plutôt dans le domaine de l'informatique et du réseau et de la cybersécurité, en effet, ça c'est la partie ressources humaines, et on recherche toujours du matériel typiquement qui sont démontés dans des installations et dont les gens ne souhaiteraient pas récupérer. Nous on récupère tout matériel de formation est utile, tout matériel qui devient pas obsolète, mais qui est plus au goût du jour pour les professionnels. Voilà. Nous, on récupère, on remet à zéro, et puis derrière, ça nous sert en niveau pédagogie. Donc voilà, on a quelques entreprises qui s'investissent. Dans l'autre sens, typiquement, on a fait le point avec 2-3 entreprises cet été, puis certaines m'ont dit, Jérôme, t'as besoin de quoi? On a fait un cours, j'ai dit, ça serait bien qu'on ait un autre modèle de borne Wi-Fi. Donc l'entreprise nous a acheté nos 24 bornes Wi-Fi.
Formidable.
Une par élève, et donc chacun peut tripatouiller sa borne Wi-Fi, la paramétrer. J'irai pas plus loin dans les termes techniques parce que là après je suis dépassé, mais voilà, donc c'est j'ai mis en relation nos enseignants et le monde de l'entreprise sur des choses comme ça, une baie serveur, des caméras, du câble réseau, enfin voilà, tout ce qui peut être utile à la pédagogie au quotidien pour nos élèves, des Raspberry, des choses comme ça, c'est des choses qui sont toujours utiles et qui permettent d'avancer dans la pédagogie par le concret, par la pratique, avec du matériel.
Alors j'ai lu dans le but, on a bien compris, c'est d'avoir des jeunes compétents et qui intègrent ce formidable écosystème qu'est le campus. J'ai pu lire que puisque nous parlons de l'approche des Jeux 2024, qu'il va manquer environ 42 000 agents de sécurité. Est-ce que c'est une...
Il y a beaucoup de chiffres qui circulent.
Oui.
Le chiffre avancé par la préfecture de région est pas de 42 villes, mais plutôt entre 20 et 25 000.
Ah, c'est déjà la moitié, c'est mieux.
Oui, mais c'est quand même compliqué. Les JO, c'est dans moins de 2 ans. Dans 2 ans, ça sera complètement fini. Et n'oublions pas, quand on parle JO, on parle JOP. C'est bien important d'avoir toute cette enveloppe. Et donc, on a un grand chantier devant nous. Donc il y a différents plans qui sont coordonnés, soit par la DIJOP, la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques, soit par le COJO, soit par la préfecture de région. Et le campus prend toute sa part dans ce sujet, parce que c'est notre rôle d'être impliqué dans la société et dans ces événements aussi. On a un petit peu de savoir-faire, on a beaucoup de partenaires qui nous aident aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en œuvre tout un plan de formation par rapport à ça, pour arriver à faire en sorte que nous apportions notre pierre à l'édifice par rapport à ces 20-25 000 agents nécessaires pour les Jeux Olympiques.
Pour être en adéquation. Oui. Stéphane Volant, vous vouliez intervenir sur ce chiffre
j'ai donné. Les chiffres ont leur importance. Vous avez dit avec justesse qu'il manquait 42 000 agents à recruter, et Jérôme Morge a rebondi immédiatement en disant pas simplement pour les JO. À dire le vrai, il y a le stock et le flux. Le stock, c'est déjà aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 agents qui manquent dans les métiers de la sécurité privée. Et donc il y a là un gisement de jobs, d'emplois à pourvoir avant même le mondial du rugby ou les Jeux Olympiques. Et derrière, il y a effectivement, comme l'a précisé Jérôme, 22 à 25 000 agents supplémentaires de façon ponctuelle pour justement servir la population, les spectateurs qui vont venir participer à ces deux grands événements. Mais encore une fois, il y a le stock et il y a le flux. Le stock est déjà en déficit. Il faut qu'on le comble. Et donc, il y a vraiment des vrais emplois aujourd'hui déjà à pourvoir. Et puis derrière, il y a le flux. Il va falloir qu'on abonde davantage pour moitié, entre 22 et 25 000, pour justement satisfaire les besoins ponctuels de la Coupe du Monde de rugby et des JO.
Oui, et vous nous aviez dit, Jérôme Morge, quand vous étiez venu la première fois, que par rapport à ces événements ponctuels, après, il faut penser à la reclassification de ces personnes.
Oui, vraiment, l'objectif, c'est pas de former des gens pour que l'événement passé, que ce soit l'un, l'autre, ou quel que soit l'événement, qu'il soit derrière, sans emploi. Oui. C'est pas du tout ça l'objectif, bien au contraire. En tout cas, la position du campus, elle est complètement à l'opposé de ça. C'est vraiment que ce soit des gens qui soient formés soit pour intégrer le métier ensuite, ou avant, pendant, ou après, soit que ce soit ce qu'on appelle nous du job étudiant, du job d'appoint, du complément, des gens qui aient toutes les qualifications et qui puissent monter en compétences sur de l'événementiel. Aujourd'hui, quand on fait de l'événementiel, ce sont des agents en supplément qui viennent en soutien. Et donc, il faut cette population, il faut ces gens capables d'intervenir avec les différents profils sur ce type d'événement, et donc on travaille à ces formations-là.
Merci Jérôme Morge. Stéphane Volant, vous vouliez ajouter encore quelque chose?
Oui, c'est extrêmement important ce que vient de dire Jérôme Morge, parce que jusqu'à maintenant, s'il y a eu des déficits d'emploi dans la sécurité privée, c'est parce qu'on imaginait que la sécurité privée, c'était simplement le vigile, avec plus ou moins un joli uniforme, parfois de temps en temps une espèce de survêtement, et puis parfois un uniforme très sophistiqué. Mais en tout cas, c'était la personne qui protéger une entrée, protéger une sortie, garder un parking. Aujourd'hui, les métiers ont vraiment considérablement évolué. Il y a d'abord tous les aspects humains que Jérôme a décrits, il y a tous les aspects technologiques que Jérôme a décrits également. Et puis par ailleurs, il faut imaginer que dans une carrière de professionnel de la sécurité privée, on va justement pouvoir faire carrière et progresser. Si je prenais une image militaire que certains ont en tête, ou le général à mes côtés sera complété, il y a évidemment le gendarme, mais il y a le sous-officier officier, et puis il y a l'officier. Et puis il y a même des sous-officiers supérieurs et des officiers supérieurs. Et là, c'est exactement la même chose dans ces métiers. On va pouvoir développer très ponctuellement des savoir-faire. Au moment des Jeux Olympiques, il y a un besoin qui va s'exprimer. Donc là, de façon très ponctuelle, il faudra qu'on satisfasse ces besoins. Mais sur la durée, on peut imaginer qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre à l'échelon le plus bas d'agent d'exécution dans les métiers de la sécurité finira un jour directeur d'un service de sécurité avec la responsabilité de 100, 200, 500, 1000 hommes comme il peut y en avoir aujourd'hui dans les entreprises. Et ça, c'est un peu nouveau, ce regard sur la profondeur et sur toute la carrière. Et c'est ce qu'on essaye de viser à l'intérieur du campus pour justement offrir ces perspectives de job comme il existe dans plein d'autres métiers.
Et c'est peut-être là où toute la pédagogie est importante pour arriver à faire miroiter à ces jeunes toutes les évolutions possibles.
C'est important de leur expliquer le métier qu'ils feront dès le lendemain, dès leur sortie de formation. Mm-hmm. D'ailleurs, ils le font pendant le stage même. Mais c'est aussi important de leur donner, comme le disait Stéphane, toutes les perspectives, toutes c'est les ça. Évolutions qu'il peut y avoir derrière, toutes les facettes du métier. Enfin voilà, vous pouvez être... je vais juste compléter ce que disait Stéphane. Le métier a énormément évolué en effet. Aujourd'hui, un agent de prévention sécurité, c'est d'abord un agent d'accueil. C'est la première personne que vous voyez quand vous rentrez dans n'importe quel lieu public. C'est lui qui est à l'entrée, c'est lui qui oriente, qui informe. Enfin voilà, ce métier a énormément évolué et en effet, les carrières à l'intérieur sont diverses et variées. On passerait toute l'émission à les décliner et à essayer de les citer. Je ne suis même pas sûr qu'on y arriverait, quoi.
Encore un mot, Stéphane Volant.
Oui, j'essaye de rebondir à chaque fois pour que le débat soit animé. Ce que je trouve tout à fait intéressant aujourd'hui, c'est que les jeunes qui sont sur le marché de l'emploi cherchent des métiers avec du sens.
Oui, c'est vrai.
Ils veulent des valeurs, ils veulent du sens. Et dans ces métiers de la sécurité, on est utile. Il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Et évidemment, tout au long de son activité professionnelle, de sa journée professionnelle, on rend service, on est utile, on protège. Et donc, ça donne du sens. Et une vraie couche, par ailleurs, qui est commune à l'ensemble de ces métiers, c'est l'éthique et la déontologie. Et de ce point de vue-là, sur le campus des métiers, on est particulièrement attentif à cette posture-là, à cette façon de penser, à cette façon d'être utile aux autres. Et je pense qu'au moment où on cherche du sens et de l'utilité, ces métiers-là sont justement faits pour ceux qui sont dans cette recherche éthique, déontologie, utilité. C'est au cœur des préoccupations des professionnels de la sécurité et c'est au cœur de l'enseignement qu'on dispense au campus des métiers.
Je pense que nous y reviendrons sur l'éthique et la déontologie quand nous parlerons de la Fondation. Merci Stéphane Volant, merci beaucoup Jérôme Morge d'avoir été l'invité de l'économie en direct, ce qui ne vous empêchera pas de rebondir aussi avec Stéphane Volant ou le général Daoust. Donc je rappelle que vous êtes le directeur opérationnel du campus des métiers et qualifications d'excellence autour des métiers de la sécurité basé à Argenteuil, que vous avez une belle croissance au niveau des élèves, mais que vous êtes quand même à la recherche et de professeurs et de matériel.
Toujours.
Merci beaucoup, Jérôme. On marque une pause et juste après, on parle de sciences criminelles. À tout de suite.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
the fire for you, try to be the sun, try to be your home and the place that you come to. Babe, I took my whole world, I put it in your hands, really trying hard, but I don't understand.
Vous êtes bien sur IDFM 98 ou 98.fr et c'est l'économie en direct avec la sécurité comme thème de l'émission en compagnie de Jérôme Morge, directeur opérationnel du CMQ, campus des métiers et qualifications d'excellence autour des métiers de la sécurité basé à Argenteuil, le général François Daoust, directeur de CY Forensic School de l'université de Cergy-Paris, également général de gendarmerie ayant dirigé le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, et Stéphane Volant, président du CDSE, du CNAPS, vice-président de la filière des industries de sécurité et président de la Fondation des métiers de la sécurité. Général Daoust, encore merci pour votre présence.
Je vous en prie.
Donc vous êtes docteur en sciences forensiques et docteur en droit pénal, procédure pénale. Vous avez d'abord fait carrière dans la gendarmerie. Oui. Vous voulez nous en dire quelques mots peut-être?
Rapidement, je suis rentré en gendarmerie en 1984. Alors vous allez dire, ça va faire... si on commence en 1984, ça va faire très long. Non, je cite l'exemple parce que septembre 84, il y avait un petit concours universitaire qui était à l'époque... un concours très... très discret en gendarmerie, qui maintenant est devenu le réservoir principal des recrutements universitaires et dans les écoles d'ingénieurs. Mais pour vous donner
une
idée,
je
l'avais repéré. Septembre 84, j'intègre l'école des officiers de la gendarmerie à Melun après le concours, et au mois d'octobre, l'affaire Grégory démarre.
Ah oui.
Voilà. Et cette affaire Grégory va bouleverser le paysage de la science forensique, de la criminalistique, de la police scientifique, technique et scientifique en France. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la gendarmerie n'a pas de laboratoire. Et la police nationale ne peut pas répondre à l'ensemble des expertises. Les laboratoires de police nationale ne peuvent pas répondre à l'ensemble des expertises qui sont sollicitées par le juge d'instruction. Et il ne peut pas répondre parce que le rapport Jancial et qu'avait demandé le ministre de l'Intérieur Jox montre qu'il n'y avait pratiquement plus de scientifiques dans les laboratoires de police scientifique. Et ça va révolutionner et rechanger le tout, à la fois pour la police nationale, qui va recruter des scientifiques pour ses laboratoires et relancer une dynamique à la matière, et pour la gendarmerie nationale, qui va créer son propre laboratoire pour ses besoins. Je rappelle, 95% du territoire de compétences pour la gendarmerie, 5% du territoire pour la police nationale, mais nous partageons par moitié la population dont nous avons la responsabilité, la charge pour assurer la sécurité. Ce qui fait qu'un laboratoire pour la gendarmerie, c'était pas incongru. Bien au contraire, ça deviendra l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Et à partir de ce moment-là, une grande aventure commence. Et j'alterne, comme j'étais universitaire, à la fois participer à ce développement de ce laboratoire, dont je prendrai la tête en 2009, à la suite de mes illustres prédécesseurs, que ça soit le capitaine Caillé, qui après était général, puis après le colonel Hébrard, etc. Et je prends la direction du laboratoire de 2009 à 2015 et de 2015 à 2018 le commandement du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Entre-temps, j'ai aussi fait du terrain parce que c'est bien d'être dans un laboratoire, mais voir ce que l'on fait sur le terrain et les réalités du terrain, ça permet de mettre en perspective. Et quand vous rentrez au laboratoire, c'est de développer finalement vraiment les outils dont ils ont besoin sur le terrain. C'est ça aussi, cette mixité de parcours. Voilà pour le parcours.
Très bien. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce que vous mettez en œuvre maintenant à l'université. Absolument. Alors aujourd'hui, donc, vous travaillez à l'université de Cergy-Paris. Vous êtes le directeur de CY Forensic School. Quelle est votre mission en tant que directeur?
Alors déjà, c'est créer quelque chose qui est pas très bien connu. Tout le monde parle de... Enfin, tout le monde, non. Il y en a très peu qui parlent de la science forensique. En se disant, ça y est, on fait bien. En plus, le nom de l'école est en anglais, donc on a bien pris un anglicisme. Non, absolument pas. Ce n'est pas un anglicisme, contrairement à ce que l'on croit. Je rappelle que dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc vous voyez, on remonte quand même assez loin, il y avait la médecine forensique.
Très bien.
Qui s'appelle maintenant médecine légale. Alors pourquoi forensique ? Ça vient du latin tout simplement. C'est le forum. La justice était rendue sur le forum. Et la science forensique, ce sont toutes les techniques et sciences qui participent à la résolution des crimes et à la manifestation de la vérité pour que la justice puisse être rendue avec des éléments matériels concrets, tout simplement. Donc c'est un terme bien latin que l'on a oublié. Par contre, nos amis suisses, belges et canadiens l'ont gardé dans leur corpus de vocabulaire. Nous, on le retrouve un petit peu. Et la France a préféré prendre le terme de criminalistique. Mmh. C'est bien évident parce que c'est un mot d'origine austro-hongroise, parce que c'est c'est Hans Gross, juge d'instruction autrichien, qui a développé ce terme pour expliquer toutes les sciences et les techniques nécessaires aux juges d'instruction, aux officiers de gendarmerie, aux commissaires de police et tous les acteurs. Je cite le titre de son ouvrage qui fait 2 lignes, mais qui en 1893 était déjà une révolution intellectuelle en la matière. C'est l'élément matériel, son analyse et qu'est-ce qu'il apporte pour l'enquête et le juge. Donc là-dessus, on a préféré prendre ce terme criminalistique. Donc d'autres parlent aussi de science criminelle. Vous avez bien compris, ça englobe tout ça.
Bien sûr, oui. Ben, merci beaucoup pour toute cette précision parce que en effet, moi j'avais cherché l'origine de forensique et j'avais vu que c'était plutôt un terme anglo-saxon. Donc merci beaucoup.
Non, les anglo-saxons l'ont piqué parce que finalement, ça illustre parfaitement bien pour eux. Ils ont pris aussi là-dessus, ils se nourrissent des vocabulaires qui illustrent. Ils ont pris aussi criminalistique. Ils ont pris aussi beaucoup d'éléments. Donc là-dessus, ils sont pas regardants comme nous pouvons l'être.
Alors donc vous, votre mission de directeur, c'est est-ce que vous enseignez également ?
Oui. Alors la mission de directeur, c'est finalement arriver à créer pour la première fois en France un parcours dédié justement à ces techniques et à ces sciences autour de la résolution des crimes. Ça n'existe pas en France. En France, vous avez des formations spécialisées dans chaque domaine. Vous serez un spécialiste de la chimie, un spécialiste de la physique ultrastructurale, vous serez un spécialiste de l'anthropologie, vous serez un spécialiste de la lophoscopie, c'est-à-dire l'étude des empreintes, quelle que soit le digital, palmaire ou autre. Mmh. Vous serez un spécialiste donc des véhicules, mais vous n'aurez pas cette connaissance générale de la science forensique, alors que c'est indispensable. Les Suisses, avec l'université de Lausanne, en ont des parcours depuis 1909. Et ce sont d'ailleurs eux qui ont créé le premier laboratoire de criminalistique ou de sciences forensiques à l'université de Lausanne en 1909.
Oui, qui fait référence.
Et la France, soit elle va chercher ses compétences auprès de Lausanne. Je suis moi-même passé par l'université de Lausanne et cette école des sciences criminelles. Ou elle va chercher des spécialistes qu'elle va mettre dans ses laboratoires et l'enfermer dans son domaine de compétences. Ce qui est un petit peu dommage parce que même si on a une dominante biologie, l'ADN par exemple, plus qu'à la mode, c'est un élément indiciel très incontournable maintenant, que vous soyez un chimiste ou autre, connaître la science forensique dans son ensemble et de quoi sont capables les autres domaines scientifiques permet, un, de faire des bons prélèvements sur le terrain sans effacer les traces qui peuvent être et qui peuvent intéresser les autres experts. Et c'est à la fin, quand on a un résultat scientifique, le mettre en perspective et le partager avec les autres spécialistes pour en apprécier la pertinence par rapport à l'action criminelle.
Bien sûr.
Parce qu'un ADN tout seul, isolé, en disant « j'ai un ADN », ça ne veut rien dire. Donc, mais par rapport à un contexte, par rapport à une empreinte digitale un peu plus supplémentaire, par rapport à des éléments organiques, par rapport à des éléments indiciels de résidus de poudre, etc., que l'on va retrouver, y compris sur l'individu qui a laissé son ADN, etc., etc., ça a une autre portée que étudier tout seul. Donc voilà pourquoi la création de parcours est absolument nécessaire. Et je n'oublierai pas, dans cette création de parcours, de mettre et de développer le numérique, évidemment, on en parlait tout à l'heure, c'est, nous sommes dans un monde numérique et entouré de numérique, à tel point que maintenant dans les enseignements et dans les cours que nous faisons, nous avons changé complètement l'appréhension de la scène de crime. Avant, ben, on faisait attention de ne pas laisser de traces d'ADN soi-même sur la scène quand on venait ou ses propres empreintes digitales, on s'habille, etc. Maintenant, on demande à tous les techniciens et les experts qui rentrent sur la scène de crime de laisser leur portable soit dans une cage de Faraday, un petit coffre qui fait cage de Faraday, soit les laisser à plus de 50 mètres de la scène de crime parce que vous êtes connecté avec tout. Et chaque fois que vous rentrez dans une pièce ou qu'il y a un frigo qui est connecté à Internet, il y a maintenant, vous savez, ces espèces d'assistants qui, de différents, que ce soit de Google, de Apple, de Microsoft, etc., qui vous demandent d'éclairer toute la domotique, faire les recherches, mettre en route le chauffage, etc., etc., enregistre aussi toutes les conversations et au-delà de ça, communique automatiquement avec tous les autres objets pour voir s'il y a des messages qui se font. Donc cette communication d'objets laisse des traces numériques dans des mémoires tampons. Et si on rentre avec un portable,
on va polluer le...
On va polluer et on risque d'effacer la mémoire tampon avec les dernières choses.
Très bien.
Donc voilà, ce sont tous ces développements et arriver à créer tous ces parcours au sein d'une université, et en l'occurrence, Cergy Paris.
Oui, parce que alors le crime, vous nous l'avez bien dit, va générer des traces et tout l'intérêt de l'enquête sera de partir de ces traces pour essayer de reconstruire les événements passés, c'est-à-dire le crime ou l'infraction.
C'est ça. C'est en gros ce que Carlos Ginzburg ou Umberto Eco appellent l'inférence. C'est-à-dire qu'à partir des effets, on infère les causes. Donc les effets, ce sont les traces qui restent. On a un corps ou une action criminelle, enfin on a un crime, eh bien, mais il faut qu'on en détermine et les causes et la source. Donc on part des traces et on remonte jusqu'à la source. Mais il ne faut pas oublier une chose, et ce qui est enseigné aussi aux professionnels, et c'est là les échanges des professionnels avec ceux qui enseignent et l'expérience, c'est que les éléments d'enquête et le renseignement d'enquête est tout aussi important que la trace. Parce que parfois, on peut arriver sur une scène de crime et il n'y a pas de trace. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ou on continue l'enquête? Eh bien non, il y a toujours l'enquête classique qui est là, heureusement.
Sur un détail qui
est là. Oui, et il y a un témoignage, et il y a de la vidéo protection, et il y a des traces numériques, et il y a de etc., 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 qui font que même si sur la scène elle-même, on n'arrivera pas à trouver de traces, parce que soit elles ont été effacées, soit parce que le criminel n'est pas un bon donneur, parce que etc., etc., eh bien, l'enquête pourra quand même avancer.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez, quand vous avez commencé ces sciences forensiques, vous étiez à la fois en laboratoire, mais aussi sur le terrain. Et je crois qu'au niveau des formations, ça détermine aussi les études qui vont être
abordées. Voilà, c'est ça. Les études, alors actuellement, il y a en coopération avec le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, un diplôme universitaire de criminalité. linguistique, qui est là pour apporter une connaissance générale des capacités de la, des différents domaines en matière de criminalistique. Alors, nous avons des avocats, des journalistes, des magistrats, qui, voire même des professionnels, des enquêteurs, qui souhaitent suivre cette formation parce que ça donne cette approche, savoir ce que font les techniciens et ce que font les experts. Donc là, c'est important pour eux, et de où est-ce que je me situe et qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter. Plutôt que de faire des missions d'expertise dans le vide ou demander des examens scientifiques parce qu'on a regardé en boucle l'ensemble des épisodes de la série Les Experts de Miami ou autre, et on sait qu'on peut tout demander en 40 minutes, y compris l'impossible et ce qui est de la SF, non pas de la science forensique, mais de la science-fiction, c'est-à-dire des examens qui sont totalement impossibles à faire. Et là-dessus, on remet un petit peu dans l'axe pour tout le monde. Je n'irai pas plus bas. C'est
désolé.
Mon siège qui est descendu d'un coup. L'enseignement, c'est à la fois un enseignement pour vers des techniciens aussi. On a un diplôme universitaire qui est bachelor de niveau Bac plus 3 à Lorient, à l'école Saint-Joseph, qui est en co-tutelle, où nous apportons nos compétences, notre encadrement pédagogique avec ceux qui enseignent à Lorient, et qui permet de former des techniciens de très haut niveau. Nous avons aussi développement, et là on a ouvert le master de biologie C2M, c'est-à-dire des métiers du médical et de la forensique, c'est-à-dire qu'on travaille de la même manière, que l'on recherche sur de l'ADN un marqueur discret d'une maladie génétique ou d'un cancer, ou etc., 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 ou que l'on recherche des loci, c'est-à-dire des marqueurs sur des allèles, avec des allèles bien particuliers, sur un morceau d'ADN qui a été relevé sur une scène de crime. Donc on a ce parcours qui est lancé, et nous travaillons sur justement une licence, c'est-à-dire partir du post-bac pour avoir un parcours cohérent. Et là, on a des projets qui se recoupent avec Jérôme Morge. Oui. Et là, j'en viens au bachelor de sécurité informatique, dans lequel il va y avoir aussi une couche supplémentaire qui est celle de forensique numérique, parce que protéger une entreprise, protéger un département, une municipalité de toute attaque, c'est essentiel. Mais arriver par des moyens forensiques à en déterminer l'origine de l'attaque et la source, c'est donner aux forces de l'ordre et à l'appareil judiciaire de quoi, un, les intercepter, et deux, après, derrière, de quoi pouvoir les juger.
Oui, et d'éviter des erreurs judiciaires apparemment il n'y en a presque plus d'erreurs judiciaires aujourd'hui compte tenu de ces sciences forensiques.
Alors là déjà il y a vous engagez sur
un terrain dangereux.
Non, il n'est pas dangereux du tout. La France, la France, de par son système judiciaire inquisitoire, a beaucoup moins d'erreurs judiciaires que le système accusatoire anglo-saxon, où là, il y a énormément de biais dans la façon de rendre la justice et dans la façon de l'appréhender pour que elle puisse être faite. Ou, pour faire rapidement, le système judiciaire accusatoire met en face...
oblige certaines personnes à s'accuser alors que...
Voilà. Et en disant, écoutez, vous accusez, vous ferez que 50 de prison et on n'en parle plus. Si vous voulez risquer le procès, au regard de ce que l'on a et le peu d'argent que vous avez pour obtenir des contre-expertises, vous serez condamné à 20 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites? Et des gens qui ne sont pas coupables, préfèrent faire 5 ans que de risquer une peine de 20 ans parce que... Donc, c'est un système qui... et d'ailleurs, l'Angleterre l'avait reconnu après la révision des procès concernant concernant les accusations d'Irlandais pour des attentats, etc., où finalement ils y étaient pour rien. En disant, ben, le système accusatoire n'est pas celui qui est le plus intéressant. Donc, le rapport de la couronne est consultable sur le net. Le système inquisitoire français serait intéressant. Mais notre culture fait que on continuera quand même avec le système accusatoire. Essayons de mettre d'autres garde-fous pour éviter un certain nombre d'erreurs judiciaires. Alors dire qu'il n'en existe pas en France, oui, je ne m'y risquerai pas. Mais l'épaisseur du trait par rapport à ce qui existe dans d'autres pays. Voilà.
Général Daoust, je crois que je vais vous réinviter parce que vous avez trop de choses à nous raconter. Donc les sciences forensiques. On va essayer de rester dans notre axe. Oui. Permettent beaucoup de débouchés à travers tout ce que vous nous avez dit.
Alors les débouchés sont, vous avez les débouchés classiques qui sont les débouchés, vous passez les concours de la police, de la gendarmerie pour entrer soit dans les laboratoires où vous serez un expert d'un des domaines ou au contraire pour être sur le terrain, que vous soyez de niveau ingénieur ou de niveau technicien, on a besoin tout à l'heure Stéphane le disait, il y a besoin de cadres aussi, les petites mains c'est très important, mais les petites mains qui ont des capacités de pouvoir devenir cadre intermédiaire ou cadre supérieur, il y en a beaucoup moins, sauf si on les forme. Et ça, c'est la création de ces diplômes, que ça soit dans les CMQ pour faire du middle management ou au contraire du management j'englobe tous les métiers de la sécurité, y compris le forensique, pour arriver à ce que un technicien devienne technicien supérieur et encadre un groupe sur le terrain, et un ingénieur ou un expert de la scène de crime encadre plusieurs équipes sur le terrain et puisse répondre à la fois le commandement sur le terrain. Je fais traiter la scène de crime, mais en organisant et en commandant les hommes qui vont le faire. Donc je connais leur métier et je sais l'organiser pour répondre et ramener les traces et qui seront analysées en laboratoire. Et dans le laboratoire, même chose. Vous avez le technicien, mais vous avez l'expert qui, de chacun, devra encadrer pas seulement des machines, mais des hommes et des femmes qui vont faire les analyses. Et derrière tout ça, il y a l'interprétation. Parce qu'on a des résultats, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, ces formations se dirigent pour ces métiers d'encadrement. Donc police, gendarmerie, ne pas oublier les laboratoires des douanes. Ils sont discrets, les douanes. C'est là, le ministère des Finances, on le sait, sont très discrets. Il n'empêche que les laboratoires des douanes recrutent chaque année des experts en chimie, des experts en ADN, des experts en différents domaines analytiques. Et la formation au métier des laboratoires et des analyses, c'est la même chose. La science forensique, science de l'observation et de l'interprétation, permet de faire tous ces métiers, y compris dans les laboratoires privés, soit d'ADN ou de chimie ou de tout ce qui est anatomopathologie, oui, etc. On voit bien tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et au-delà de ça, même dans des laboratoires médicaux. C'est la même façon de dépister, rechercher la trace qui va pouvoir permettre à l'expert de dire au médecin, attention, ces petites traces-là que j'ai réussi à trouver, eh bien, pour vous, elles vont être déterminantes sur un ensemble de maladies possibles. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement lié à... que de l'expertise ADN là-dessus.
C'est ça, c'est vraiment le spectre est large et il faut absolument pouvoir tout contrôler.
Exactement.
Jérôme Mort, je parlais de motivation pour les élèves. Je crois que vous, on sent votre motivation et votre passion pour parler de sujets.
Ah oui.
Et que je crois qu'il est nécessaire aussi pour les élèves que vous recrutez dans votre domaine.
Voilà, tout à fait. Alors, Alors, à la fois, les élèves, ils arrivent très vite. Hein. Là, les experts, ça parle à tout le monde. Hein. C'est chatoyant. Non, après, c'est la création de parcours qui a besoin de professionnels. Et c'est vrai que autant on va arriver à trouver le spécialiste dans un domaine, autant je suis obligé de parler avec lui, de le former à la science forensique pour avoir une vision d'ensemble générale et le sortir de son effet tunnel,
oui,
qui est de ne voir la scène de crime qu'à travers la seule chose qu'il en connaît, c'est-à-dire sa spécialité. Donc là-dessus, c'est non. On ouvre les yeux, il faut être très critique, très humble, c'est on observe, on interprète et on partage son interprétation et ses résultats avec les autres.
C'est ça, oui, la collégialité est importante. Alors, moi j'avais assisté, juste encore un mot, parce que je voudrais donner la parole à Stéphane Volant. J'avais assisté à votre débat lors de la tournée de l'innovation Argenteuil. J'avais retenu votre intervention concernant le design du mobilier, dont vous disiez qu'il était... Parce que le Rajeshwaran Alexandre avait insisté lorsqu'il avait présenté CYU sur le design, et en fait vous en avez donné la bonne démonstration.
Exactement. L'école du design de CYU, eh bien, alors on pense aux objets qu'a pu faire Stark ou autre, etc. Mais ne se limite pas à l'objet. C'est le design, c'est la connaissance de l'environnement pour lequel on va demander à une équipe de designers de transformer cet environnement pour qu'il soit le plus efficace possible et non pas seulement esthétique.
C'est ça.
Donc, et on donne cet exemple de reconstruire un hôpital de façon à ce que les flux entrants ne se croisent pas, qu'on ait les salles d'examen au plus près de certaines spécialités comme l'orthopédie, c'est pas la peine de mettre l'orthopédie au quatrième étage, la salle de rééducation au sous-sol et la radio de l'autre côté de l'hôpital. On voit bien que il y a certaines choses qui ne vont pas. Donc l'observation de l'environnement et de ce qui peut et des besoins, les designers sont d'excellents finalement forensiciens, pour, je les mets sur une scène de crime, eh bien, ils sont excellents.
Oui,
parce qu'ils vont tout de suite voir ce qui ne va pas et qu'est-ce que c'est qui a pu être touché de ce qui n'a pas pu être touché, parce que justement, ils ont cette habitude de voir la fonctionnalité d'une pièce. Qu'est-ce qu'on va, on rentre, on va regarder, le corps est là, donc il a peut-être été traîné, etc., etc. Donc là-dessus, chaque fois que je fais des cours, eh bien, je fais aussi un cours de design. Et il faut savoir que design, ça vient de dessin et ce n'est pas forcément que de...
Oui. Que l'architecture d'intérieur, oui.
Voilà. Et inversement, là, on essaye de mettre un petit cours de scène de crime aux designers, et aux futurs designers plutôt, histoire de leur donner encore une vue plus large de l'observation et de l'interprétation.
Écoutez, c'est excellent. J'aurais d'autres questions à vous poser, mais l'heure tourne. Vous voyez, une heure et demie, ça paraît long, mais en fait, ça passe très, très vite. Merci, Général Daous, pour présentation très, très éclairante. Et puis, encore une fois, nul doute que vous êtes passionné par le sujet et que vous devez certainement transmettre à vos élèves,
j'espère,
à vos étudiants. Merci. Restez avec nous. On marque une nouvelle pause avant de poursuivre l'émission avec mon troisième invité, Stéphane Volant. À tout de suite. We'll be right back. IDFM 98 ou 98.fr. Si vous nous rejoignez ce matin dans l'économie en direct, nous parlons de sécurité, de sciences forensiques et de fondation des métiers de la sécurité. Je suis toujours en compagnie de Jérôme Morge, le général François Daoust et Stéphane Volant, donc président du CDSE, vice-président du CNAPS, vice-président de la filière des industries de sécurité et président de la Fondation des métiers de la sécurité. Stéphane Volant, avez-vous toujours été dans ce domaine de la sécurité ?
Alors, j'ai pas toujours été dans ce domaine de la sécurité, et d'abord, j'ai été étudiant. Je vous dis ça parce que, quand j'écoute le général François Daoust, je me dis que j'ai une furieuse envie de retourner sur les bancs de l'école. Il donne envie d'avoir envie de retourner, se faire former. On n'a pas forcément cette image de la gendarmerie qui est un peu austère, un peu rugueuse, et quand on écoute le général Daoust, on se dit, mais finalement, j'ai loupé ma carrière, j'aurais dû être gendarme. Mais, comme je n'ai pas été gendarme, j'ai été cheminot d'abord. J'ai été plus de 22 ans, l'un D'accord. des dirigeants du groupe SNCF, oui. et c'est comme ça du reste que j'ai connu le Val d'Oise, qui est une terre irriguée par des lignes de chemin de fer, évidemment, et qui et ça rejoint notre sujet d'aujourd'hui. C'est aussi un territoire de sécurité. C'est pas depuis hier, ça fait très 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 longtemps que l'Île-de-France en premier lieu, et puis le département du Val d'Oise ensuite, s'intéresse à ces questions de sécurité. C'est pour ça qu'on y est, et qu'on y est bien, et qu'on y est bien depuis longtemps. J'en veux pour preuve que c'est sur ce territoire, le général ne me contredira pas, et Jérôme Morge non plus, qui a été inventé le bracelet
oui,
anti-rapprochement,
oui,
par exemple.
J'en parle
Alors,
régulièrement.
On a le succès modeste dans le Val d'Oise, mais c'est quand même ici.
Le département pilote.
Absolument, c'était ça, le oui. département pilote. On l'avait inventé avec le laboratoire scientifique de la gendarmerie, qui est à Pontoise. C'est avec cette expertise-là aussi, et une entreprise qui s'appelle 3M au départ, qui était notre partenaire. Et puis, c'est aussi ici, dans la ville d'Anguin, qu'on a créé le festival du film de sécurité, oui. qui aura bientôt sa 3e édition au printemps prochain. Et donc, c'est pas complètement neutre et complètement innocent si, effectivement, c'est ici qu'autour de l'université de Cergy, on crée un pôle de compétences dédié au métier de la sécurité, parce qu'on a cette crédibilité, cette histoire là, avec un territoire qui y croit et avec des entreprises qui s'y installent, qui sont concernées, au premier rang duquel par exemple ADP, dont on imagine bien
oui,
que
bien sûr.
Pour gérer l'aéroport de Roissy, il y a des questions de sécurité mm-hmm. extrêmement fines qui se posent. Et donc c'est pas neutre si on est là, parce qu'on y est bien en Île-de-France, on y est bien dans le Val d'Oise, et on a par ailleurs, pardon de parler d'argent, mais après la toge que représentait l'université et François Jérôme Morge et le glaive que représente le général Daoust. Moi, je représente les entrepreneurs, si je puis dire.
Oui.
Et donc, il faut qu'on parle d'argent et le fait qu'on ait des gens qui croient en nous.
De toute façon, c'est le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre, absolument. Et donc, le nerf de la sécurité.
Oui.
Et donc, c'est pas neutre que d'avoir des gens qui croient en nous, qui croient dans ce secteur. C'est le cas du département du Val d'Oise qui nous soutient. C'est le cas de la région Île-de-France qui nous soutient aussi. Et puis c'est le cas de nombreuses entreprises qui nous rejoignent. Je parlais d'ADP, mais je pourrais, ou j'ai cité 3M, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres.
Merci Stéphane Volant. Stéphane Volant, avant d'aborder la Fondation des métiers de la sécurité, je voudrais qu'on revienne sur, parce que Jérôme Morge disait qu'il n'y avait pas assez de jeunes filles qui intégraient les études hein, du campus. Et vous avez mis en avant, enfin il y a eu la publication de Sécurité et Stratégie numéro 34.
Vous êtes bien informé.
Absolument.
Vous êtes journaliste d'investigation, vous faites du forensique vous aussi.
Non, je suis très... Voilà. Et donc, sur les professionnels au féminin de la sécurité, sûreté corporate, pour lequel vous avez fait un magnifique édito. Voilà, donc je voulais... Vous êtes tout de suite remonté dans mon estime.
J'ai pensé à vous, c'est pour ça.
C'est pour dire qu'il y a quand même des femmes dans ce domaine.
Oui, absolument. Je citais François Giroud en disant « La femme est un homme comme un autre ». Évidemment. Et parmi les grandes évolutions des métiers de la sécurité, la féminisation est un des marqueurs de ces dernières années. De plus en plus de femmes ont cassé la paroi de verre qui les séparait de ce métier, qui était perçu comme un métier exclusivement masculin. Et j'en veux pour preuve que du reste, dans la gendarmerie, oui, aujourd'hui, il y a des femmes générales, et c'est très bien, des générales le, oui, des colonels le, des adjudantes et des sergentes, et je trouve ça très bien. Et bien, dans nos métiers, c'est exactement la même chose. Il y a des directrices de direction de sécurité dans les entreprises, et ce métier se féminise de plus en plus. C'est l'un des marqueurs de ces dernières années, en même temps que deux autres. C'est un métier qui devient de plus en plus jeune. Ce n'est plus un métier de fin de carrière, c'est un métier de début de carrière. Le général Daoust en a parlé, François, Jérôme Morge également. C'est un métier qu'on peut commencer jeune, en bas de l'échelle, et on peut gravir échelon après échelon, et donc y faire toute sa carrière. Et c'est perçu chez les jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à ces métiers avant d'être plus mûrs et plus matures. Et puis le troisième marqueur, c'est que jusqu'à maintenant, on voyait dans ces métiers beaucoup d'anciens militaires, d'anciens gendarmes, d'anciens policiers. Et aujourd'hui, dans la carrière d'un salarié, certains se disent, de plus en plus nombreux, tiens, mais après tout, je suis un pro du marketing, je suis un pro du RH, je suis un pro de la communication. Pourquoi pas, au gré d'un changement de carrière ou d'un changement d'entreprise, ne pas aller vers un métier de la sécurité? Et c'est d'autant plus simple pour ces gens issus de l'entreprise que de basculer dans ces métiers, si je puis dire, ou d'opter pour un bout de leur carrière dans ces métiers, qu'il existe aujourd'hui des formations diplômantes qui, en cours de carrière, permettent de se remettre à niveau sans passer forcément par le stade « je porte un képi » ou « je porte des galons ». Et ça, c'est extrêmement motivant aussi, parce que ça élargit le champ. On a des femmes là où on n'avait que des mecs, on a des jeunes là où on n'avait que des anciens, oui, et puis on a des gens qui viennent du civil là où on n'avait que des militaires, des policiers ou des gendarmes, et c'est vraiment chouette.
Et toujours, ce que vous nous disiez en début d'émission, donner du sens à ce que l'on fait.
Oui, c'est important. Il y a des tas de métiers qui sont tellement répétitifs que le soir, quand on rentre chez soi, on n'a plus grand-chose à raconter le vendredi par rapport à ce qu'on a déjà dit le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. À ses enfants, à sa femme, à son mari. Dans les métiers de la sécurité, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Du reste, quand on écoute le général Daoust, on sent de la passion.
Oui,
se dit, waouh, quelle carrière, il a dû s'en passer des trucs dans cette vie de général-là. Bon, et ben dans les métiers de la sécurité, c'est exactement la même chose. Quand on rentre chez soi, on a des trucs à raconter, parce que ce qu'on a vécu dans la journée était très différent.
Chaque jour est différent.
Et puis par ailleurs, on a le sentiment d'être utile. On fait le bien. Protéger les autres, anticiper le risque, gérer la contrainte, ça donne de la valeur aux choses. Et à ce moment de l'histoire où la marque employeur, comme on dit, pour attirer les meilleurs dans son entreprise, il faut pouvoir donner du sens à ses services, donner du sens à ses produits, pouvoir mettre à l'intérieur de ses produits et de ses services une dose de sécurité, ou ne faire que de la sécurité dans son objet social, c'est une façon de donner du sens à l'action, à l'emploi, et donc attirer les meilleurs.
Stéphane Volant, abordons le thème de la fondation des métiers de la sécurité. Pourquoi une fondation ?
Une fondation parce que c'est un outil très intéressant. C'est une espèce de, j'allais dire, de chauve-souris. Regarde mes pattes, je suis un rongeur. Regarde mes ailes, je suis un oiseau. La fondation, c'est une structure juridique. Donc, en ce sens, elle ressemble à une entreprise. Elle a des capitaux, elle a un conseil avec des stratèges ou des gens qui sont là pour déterminer un horizon lointain. Et puis, elle est au-dessus ou juste à côté d'une structure plus opérationnelle. Et en même temps, elle est parfaitement désintéressée puisqu'elle n'a pas de but lucratif. En même temps, ses administrateurs ne sont pas rémunérés sous forme de dividendes. Ils font ça bénévolement. Et donc, on a là une structure qui convient tout à fait à ce que nous voulons faire autour de l'université de Cergy. C'est-à-dire réunir tous les acteurs concernés par les métiers de la sécurité, qui sur ce sujet comme sur d'autres ont la tentation souvent de travailler en silo et de ne pas savoir toujours très bien parler la langue du voisin, et donc avoir un peu peur d'affronter le voisin, pour de vrai. Donc là, nous aurons dans la fondation qui sera portée sur les fonts baptismaux. Elle naîtra là dans le courant de l'automne. Alors je vous le disais tout à l'heure, l'automne c'est jusqu'au 21 décembre. Donc, j'ai encore quelques semaines avec Jérôme et François. Il y aura autour de la table des académiciens, si je puis dire, le monde de l'enseignement, le monde de l'éducation nationale. Et on a mesuré tout à l'heure avec ce que disait Jérôme Morche combien la pédagogie est affaire de professionnels. Donc nous aurons là des gens qui seront capables de bâtir des formations. Nous aurons des institutionnels, c'est-à-dire des membres des collectivités territoriales, des collectivités locales, et je mets la gendarmerie et la police nationale dans ce secteur-là comme émanation de l'État. On aura du reste un représentant du ministre de l'Intérieur, mais il y aura un représentant aussi de la gendarmerie nationale. Et puis il y aura de façon très pratico-pratique des représentants autour de la table, donc dans ce conseil de la Fondation, représentant des entreprises, à la fois de très grandes entreprises. J'ai parlé d'ADP, dont la sous-préfète directrice de la sécurité sera administratrice chez nous, mais également des start-up, également des PME du Val-d'Oise ou de la région Île-de-France, de telle sorte que ça bouillonne et que les besoins des uns soient transposés par le besoin des entreprises soit transposé en termes de formation par des professeurs, un corps éducatif très 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 pointu et s'appuie sur des financements importants avec comme souci ultime, exactement comme une entreprise, c'est d'utiliser l'argent au mieux pour le transformer dans un savoir, donc dans un produit particulier, et nos produits Jérôme Morge les a décrits tout à l'heure, de façon à satisfaire des clients, et nous notre client c'est l'entreprise, et puis il y a un produit intermédiaire qui est le jeune ou la jeune que nous allons former avec du prêt à l'embauche. Car c'est bien ça, on n'est pas des sculpteurs de fumée, donc ce que nous voulons c'est évidemment être très concret et répondre à une demande telle qu'elle s'exprime par les entreprises, de telle sorte que le jeune qui sortira de nos formations soit immédiatement embauchable parce que correspondant au profil que demandent les entreprises.
Et encore une fois, nous en avons parlé au début de l'émission, par rapport aux besoins des JO 2024, vous fixez un objectif
hein. Alors, l'objectif, moi je suis avec Jérôme Morge et François Daoust, on n'est pas pour le quantitatif, nous sommes pour le qualitatif. Et donc l'intérêt c'est pas de sortir à tout prix une masse d'étudiants, d'élèves, de stagiaires dont on n'aurait pas forcément dont on ne serait pas complètement satisfait en termes de formation, parce qu'on serait allé vite, on aurait coupé dans les virages, et ces promotionnaires ne seraient pas complètement adaptés au marché de l'emploi, et on reviendrait vers nous en nous disant vous nous avez menti sur le produit, vous nous avez dit que vous étiez capable de former les meilleurs, et en définitive la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc attachons-nous à la qualité, et de ce point de vue-là on sera complètement intransigeant, mais nous aurons au moment des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de rugby, évidemment, des stagiaires, des étudiants qui sont capables de répondre à des besoins ponctuels, mais surtout de mettre ces besoins ponctuels en perspective avec une vraie carrière, parce que l'idée, c'est pas d'avoir un CDD, c'est d'avoir un CDI, bien sûr, évidemment. L'idée, c'est pas d'imaginer déjà l'entreprise d'après, même si beaucoup de nos jeunes ont envie de faire une carrière patchwork dans laquelle ils auront accumulé des expériences et multiplié les entreprises, mais peut-être d'imaginer rester dans l'entreprise un peu de temps, 10 ans, 20 ans, de telle sorte de faire fructifier ses savoirs, et pourquoi pas de faire le chemin inverse que je décrivais tout à l'heure, c'est partant de la sécurité, finalement faire des RH et du management, et pourquoi pas faire d'autres métiers, de la communication, du marketing, ou que sais-je encore.
Oui, les flux dans les deux sens sont...
Oui, bien sûr, possibles. C'est un métier qui ne doit pas être une espèce de truc fermé.
Fin en soi.
C'est pas une fin en soi, c'est pas un métier à ce point de spécialiste qu'on ne puisse pas s'en échapper et qu'on ne puisse pas faire autre chose. Au contraire, c'est un métier qui est très ancré dans la vie de l'économie, et qui, dès lors qu'on y est formé, peut offrir d'autres perspectives que les seules perspectives du métier de la sécurité, même si on peut faire toute une carrière. François Daoust est un bon exemple de général de gendarmerie qui, pendant 30 ans, a dédié sa vie professionnelle au service de l'État et à ses métiers de la sécurité.
L'éthique et la déontologie seront des valeurs que vous défendrez haut et fort.
Ah oui, vous savez, un acteur de la sécurité privée, d'abord il représente une force. Le ministre de l'Intérieur vient même de dire que pour lui, la sécurité privée était la quatrième force gérée par son ministère, derrière la police, la gendarmerie et les polices municipales. Et quand on représente la force, on doit forcément avoir une éthique, une déontologie et une posture tout à fait stricte et rigoureuse. On doit être exemplaire. Et de ce point de vue-là, on n'en fera jamais assez. Jamais assez. C'est l'exigence statutaire. Il y a une façon de se comporter qui doit être absolument irréprochable et exemplaire. Et puis c'est ce que nous demandent nos interlocuteurs. Pour être respecté, il faut être respectable. Et de ce point de vue-là, l'image que l'on donne auprès du public, qu'on est censé protéger, doit être absolument impeccable. C'est pour ça que l'éthique et la déontologie est vraiment au cœur de notre ADN. Et c'est pas un terme galvaudé chez nous. Important. C'est vraiment important.
J'ai pu voir que le CNAPS justement doit aussi exiger cette éthique et cette déontologie.
Oui, le CNAPS, alors c'est un vilain mot, hein, c'est pas très joli. Le CNAPS, on dirait, c'est pas très chouette, mais est le régulateur de la profession. Donc c'est lui qui délivre les titres qui habilite le mec ou la nana, pour faire court, à exercer les métiers de la sécurité. De ce point de vue-là, il est intransigeant, notamment en matière d'examen du profil quasi-judiciaire, par exemple, de tous les candidats. Et nous avons malheureusement des profils pas très nets qui prétendent faire nos métiers et qui, parce qu'ils ne sont pas très nets, sont justement blackboulés du CNAPS et n'exerceront jamais ces métiers-là. On peut s'en réjouir.
Donc il viendra en complément de des formations que vous proposerez.
Non, il vient au bout du bout. C'est-à-dire que la formation est délivrée par le campus des métiers. Un certain nombre de formations qui sont, pour certaines d'entre elles, soumises au CNAPS. Tout à l'heure, on parlait des pulls rouges, par exemple. Les SIAP, les agents de sécurité incendie, échappent pour le moment au contrôle du CNAPS. Ils sont gérés différemment. Donc ceux-là ne passeront jamais par ce crible-là. Mais les agents de sécurité privée, notamment, qui est la masse, le plus grand contingent de salariés du secteur, eux passent par le CNAPS, et on peut se réjouir que le CNAPS fasse bien son travail de ce point de vue-là, soit très 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 rigoureux, même si parfois on lui reproche quelques lenteurs administratives, mais une réforme qu'on est chargé de mettre en place là dans les jours qui viennent devrait nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de satisfaire justement les attentes au moment des Jeux Olympiques.
Merci Stéphane Volant pour la clarté de votre intervention. Je crois que vous pourrez revenir également pour.
Et on a droit à une deuxième séance. Absolument. Alors formidable. Mais je veux revenir avec Jérôme et avec François parce que je trouve qu'on fait un vrai trio.
Ah oui, je trouve.
Voilà, c'est plutôt sympa et c'est ça la complémentarité de la fondation.
On pourra prendre rendez-vous avec grand plaisir.
Voilà.
Merci
à
infiniment.
Bientôt.
Alors l'émission se termine juste avant de nous quitter. Un court tour de table pour un mot de conclusion, Jérôme Morge.
Pris un peu à chaud, mais je vais rebondir en fait sur les propos de François et de Stéphane. Moi, je suis toujours admiratif devant François, qui est capable d'expliquer ce métier qui est un peu une nébuleuse, mais en fait qui est tout simple quand on l'écoute. Je suis également admiratif, comme le disait Stéphane, je le rejoins complètement sur ce trio qu'on forme. C'est vraiment notre objectif. Il y a aucun intérêt personnel derrière. On est là pour nos jeunes, on est là pour qu'ils aient un métier, pour qu'ils aient un job dans ce domaine qu'est la sécurité. Et c'est vraiment notre mission. Je suis fier d'en faire partie et fier d'en faire partie avec ces deux hommes-là en tout cas.
Et avec le témoignage de Stéphane Volant sur les femmes à la tête d'entreprises de la sécurité, ça doit vous rassurer peut-être. Vous aurez peut-être plus de jeunes filles.
Oui, on œuvre en tout cas dans ce sens. Et c'est important. Oui, l'équilibre est très important de ce côté-là.
Merci Jérôme Morge. Général Daoust, un mot de conclusion.
Écoutez, nous reviendrons tous les trois avec grand plaisir.
J'en suis ravie.
Comme vous l'avez vu, c'est ce qui nous anime, c'est la cohésion, c'est une complicité parce que on a des parcours qui se sont croisés plusieurs fois et qui ont permis ce partage autour de la sécurité qui a été le fédérateur pour nous. Il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. C'est vraiment cette complémentarité qui fait notre force, parce qu'on est ensemble.
Très bien. Stéphane Volant.
Waouh, c'est compliqué. Vous avez parlé d'intérêt général. L'intérêt général, il y a deux définitions. Il y a un intérêt supérieur à tous les autres. Je l'aime beaucoup, celui-ci, parce que c'est les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et la liberté, elle doit être défendue justement par les acteurs de la sécurité, notamment de la sécurité privée, mais pas que. Et puis, c'est aussi la somme des intérêts particuliers. Et la somme des intérêts particuliers, pour nous, au sein du campus, c'est la somme des intérêts de chacun de nos stagiaires ou de nos étudiants, qui fait que aucun d'entre eux ne sera laissé sur le bord du chemin s'il a un peu d'énergie, un peu d'envie, une once d'intelligence et qu'il est passionné par nos métiers, il sortira avec un bon diplôme, il sortira avec un beau métier et il fera une très belle carrière et il sera au moins professionnellement heureux dans sa vie.
Et votre cohésion illustre parfaitement la mission de la Fondation.
Merci. Sans doute.
Merci infiniment à chacun d'avoir participé à l'économie en direct et nous avoir fait partager vos connaissances en la matière. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Retrouvez cette émission comme vous le souhaitez avec son podcast sur IDFM 98 ou 98.fr. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Moi, je vous retrouve vendredi prochain à 9h30 pour un nouveau sujet. À vendredi et prenez soin de vous et de vos proches. We'll be right back.